comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Dans n'importe quel restaurant chinois, on va trouver des spécialités vietnamiennes, thaïlandaises. Beaucoup associent peut-être le nem à la cuisine chinoise, alors que pas du tout, c'est vietnamien. Ça vient peut-être de là aussi, cette méconnaissance.
Pendant longtemps, on a appelé ça brioche vapeur. Comme c'est devenu très à la mode, on utilise beaucoup plus facilement le terme pao.
En fait, on travaille des recettes traditionnelles, des recettes d'enfance, mais dans un cadre un peu plus moderne, on va dire, où on vient en quelque sorte dépoussiérer la cuisine chinoise. On va travailler un canard laqué, un canard pékinois, on va travailler des dim sum.
Dans la province du Guangdong, les plats sont plutôt sucrés, alors que dans la région du Sichuan, les plats sont très épicés.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. C'était un emblème de notre paysage alimentaire, ce fameux resto chinois du coin de la rue. Il fut longtemps ce lieu réconfortant où l'on dégustait, entre un aquarium scintillant et un gros bouddha ventru, des nems, du poulet à l'ananas et du riz cantonais. Il y avait même souvent, souvenez-vous, ces petits cubes de nougat chinois posés sur l'addition. Bon, bah parfois, il était vrai que on était un peu moins dans le réconfort que dans l'inconfort du glutamate, cet exhausteur de goût que l'on a accusé de tous les maux. Aujourd'hui, le restaurant chinois fait sa révolution et se pose comme l'étendard d'une nouvelle cuisine plus respectueuse des traditions des provinces chinoises, plus tournée vers les matières premières de qualité, plus végétale, plus anti Gaspi aussi, c'est ce que l'on va voir avec notre invitée du jour, Céline Chung. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'une des brillantes incarnations de cette nouvelle cuisine chinoise qui fait feu de tout bois à Paris, en région. Vous êtes française de parents chinois. Vous avez fondé en 2019 Bao Family. Alors Bao Family, c'est une nouvelle génération de restaurants chinois, c'est ce que l'on va voir, des restaurants chinois à Paris, mais aussi un livre de recettes depuis peu, Bao Family, la cuisine chinoise entre tradition et modernité aux éditions Hachette Cuisine, avec les très belles photos de Grégoire Calte. On disait juste avant de commencer l'émission qu'on trouvait le livre vraiment très beau dans son graphisme. Il y a notamment à la fin aussi un poster qui permet de distinguer toutes les cuisines des provinces chinoises, hein, Céline.
C'est exactement ça. On avait vraiment envie de montrer les différentes identités culinaires chinoises. Mm-hmm. Et du coup, avec un objet graphique beau et design, on peut apprendre beaucoup de choses.
Eh bien, il est très réussi. Vous allez nous raconter votre aventure et vous allez aussi nous cuisiner quelques-uns de vos plats signatures. Alors évidemment, ce ne sera qu'un aperçu de la cuisine chinoise, mais quelques-uns des plats signatures authentiques que l'on va goûter ensemble avec toute l'équipe. Et en parlant d'équipe, justement, la nouvelle cuisine chinoise, c'est aussi aujourd'hui l'affaire et la passion de nos deux chroniqueuses, Elvira Masson et Zazie Tavitsian. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour à tous et toutes.
Elvira.
Je vais vous parler d'une sauce mystère.
Oui.
Qui tient en deux lettres.
Ah, si, à la maison, chers auditeurs et auditrices, vous avez la réponse, envoyez-nous un mail. Une sauce qui serait d'origine chinoise en deux lettres. Résultat des jeux dans le courant de l'émission, Elvira.
C'est ça.
Zazie.
Moi, je suis allée à Belleville, dans le 20e arrondissement de Paris, prendre mon petit déjeuner chinois, évidemment.
Avec une personnalité vraiment spécialiste de la cuisine chinoise, vous allez nous le faire découvrir tout à l'heure, Zazie. Si vous voulez à la maison mettre votre grain de sel dans notre émission, si vous avez aussi par chez vous de bonnes adresses de traiteurs ou de tables chinoises authentiques, envoyez-nous vos bons plans, vos remarques, vos questions. Sur notre mail, on va déguster à radiofrance.com ou bien cliquer sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Tous les contenus de l'émission, coup de cœur, recettes, podcasts, sont à retrouver sur franceinter.fr. À la page On va déguster.
France Inter, On va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de plonger dans les marmites et les paniers vapeur, vous allez plonger, chers amis, à l'aveugle, s'il vous plaît, c'est la tradition dans cette émission, dans un petit pot surprise. Alors on n'est pas vraiment, vous l'aurez peut-être compris, dans l'univers de la cuisine chinoise. Est-ce que vous auriez, allez au hasard, Céline Chung, identifié un goût emblématique?
Alors moi je sens vraiment le côté sucré et fumé de la sauce barbecue.
Bravo. Et ben voilà.
Voilà, les jeux sont faits.
Les jeux sont faits. Sauce barbecue, elle a un palais en or.
C'est pas grave, on l'avait,
Céline. Vous l'aviez tous ou pas?
Évidemment.
Elvira.
Ouais. Mais il y a quand même un côté très fumé qui est vraiment le marqueur de la sauce barbecue.
Bravo.
C'est du paprika fumé, c'est quoi?
Eh oui. Il y a quelque chose d'un, il y a quelque chose d'un piment doux fumé. Absolument. Ça vous plaît ou pas, Zazie?
Ouais, j'aime bien. Il y a un petit côté épicé, enfin pimenté qui me plaît bien.
Bien joué, et vous avez dit épicé, parce qu'il y a aussi des épices et elles sont importantes. Et bien vous l'avez trouvé, c'est une sauce barbecue, mais ça c'est plutôt bon signe, avouez-le quand même, parce que ça veut dire qu'ils ont réussi à faire une version très intéressante de la sauce barbecue avec tous les marqueurs végétaux. Je n'arrive pas à
décrire. Vous avez carrément mis un cache sur la bouteille, vous nous prenez vraiment pour des tricheuses.
Vous savez que chaque semaine, c'est Laurent Thomas qui entoure effectivement les bouteilles d'une petite chaussette qui permet de cacher la composition. Et là, je dévoile ce petit pot de 290 grammes en verre, incroyable barbecue. Je crois qu'il a plutôt raison. Mais alors, ce qu'il y a vraiment d'intéressant, parce que cette sauce barbecue, qu'on peut écrire d'ailleurs BBQ, c'est que c'est une sauce traditionnellement junk food dans sa saveur, mais alors elle n'est pas du tout, celle-ci, junk food dans sa composition. Si on se tourne vers l'étiquette, on est très loin de ces potions magiques industrielles boostées aux additifs. Dans cette sauce, que des ingrédients biologiques, français, et zéro sucre. J'ai bien dit zéro sucre.
Ah ouais.
54% de légumes. Alors, légumes, vous distingueriez quoi ? Tomate.
Il y a la tomate, ouais.
Tomate, betterave, oignon, ail. Il y a de la réduction de jus de betterave pour la douceur. Du vinaigre blanc et du vinaigre de cidre pour l'acidité. Des épices, comme le signalait notre cher Zazie. Et pour la note fumée, comme le disait Elvira, du piment. Mais alors, du piment doux, du paprika de Provence, qui est fumé artisanalement. C'est ça qui est intéressant. D'habitude, je vous fais pas de dessin sur le goût fumé des sauces barbecue. On est carrément dans un arôme fumé tout à fait de synthèse. Et là, on est vraiment dans des produits naturels sans sucre ajouté. Quand le franchement junk devient Frenchy Healthy, ça c'est le slogan de la marque lyonnaise Quintessence, qui édite justement cette sauce. Une marque qui a été fondée par l'entrepreneur engagé Sébastien Loctin. 4,40€ le pot de 280 grammes à retrouver dans toutes les enseignes bio. Alors Biocoop, Naturalia, Bio c'est bon, etc. Mais on peut aussi retrouver ces sauces sous la marque Nod Bio chez Monoprix, Carrefour et Chronodrive. Quintessence, c'est aussi une délicieuse sauce burger que j'ai goûtée, qui est très intéressante et qui est surtout trois fois moins sucrée que les sauces burger conventionnelles. Il y a aussi un très bon ketchup, il y a toute une gamme de sauces vinaigrettes. Voilà, on peut faire beau et bon tout en étant un peu junk.
Super produit. Hein.
Ouais, c'est un joli produit, la sauce barbecue de la marque Quintessence. Et puis, en parlant de dégustation, je tenais également à vous signaler ce matin une conférence-événement que j'aurai l'immense plaisir d'animer le mardi 5 avril prochain à 20h. Une conférence sur les secrets du goût avec le neurobiologiste Gabriel Lépouzé, la chef étoilée Stéphanie Lequelec et notre chroniqueur vin Jérôme Gagnez. Nous allons vous proposer un véritable voyage immersif dans le monde des saveurs avec des expériences interactives inédites et même des dégustations surprises pour mieux comprendre nos perceptions sensorielles et pour mieux apprendre aussi à déguster tous ensemble les secrets du goût le mardi 5 avril à 20h en direct du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, mais également dans 150 salles de cinéma en France. Voilà, les réservations sont ouvertes depuis vendredi sur maisondelaradioetdelamusique.fr et sur franceinter.fr. On vous a bien sûr mis toutes les infos à propos de la billetterie sur notre page. On va déguster derrière la console pour cuisiner cette émission en direct. Laurent Thomas, Florian Dorimini, Nadia Chougui, en guise d'amuse-bouche de la nouvelle cuisine chinoise que l'on va évoquer dans un instant avec Céline Cheung, ou plutôt un amuse-oreille, Plum Blossom de la chanteuse et actrice de cinéma Li Tianyan, choisi par Chewbacca. Bon appétit sur France Inter.
Bonjour, bienvenue à Bleu Bao. Aurélie, directrice de Bleu Bao.
Bleu Bao, bleu comme la couleur.
Tout à fait, comme vous pouvez le voir sur le mobilier, le papier peint, la vaisselle, tout est bleu ici. C'est un hommage aux vases chinois, dans les grandes maisons traditionnelles.
Qu'est-ce qu'on déguste ici?
Donc Bao, dim sum et cocktail bar. En fait, Céline et Billy, les fondateurs de la Bao Family, ont voulu imaginer des restaurants chinois, mais qui sortaient un peu des clichés qu'on avait déjà sur les restaurants chinois en France. Donc des beaux lieux, des lieux de vie, de partage, mais avec une cuisine traditionnelle chinoise, avec des bons produits bien sourcés et des produits frais.
Vous me faites un peu visiter?
Bien sûr, avec plaisir. Donc ici, on traverse le restaurant, vous avez le bar sur la droite.
Bonjour.
Bonjour, enchanté. Thomas, chef barman.
Qu'est-ce que vous faites comme cocktail, par exemple, un peu inspiré de la culture chinoise?
On est sur 8 cocktails, sur 8 régions différentes, avec 8 ingrédients différents, en fonction de la région. On a, par exemple, un des best-sellers ici, qui est le Jinan d'amour, à base de gingembre, un petit peu de calvados, verjus et soda water. On est sur un sirop de gingembre maison, très agréable, soit pour commencer la soirée ou pour la terminer.
C'est le cocktail qui a le plus de succès?
En ce moment, oui, juste depuis l'ouverture, c'est vraiment le best-seller.
Donc là, on continue, et juste derrière, vous avez le Bao Bar.
Madame, bonjour. Là, il faut imaginer qu'elle est en train de pétrir.
Ouais, la pâte à Sha Long Bao, donc, qui sont nos petites bouchées avec le petit bouillon à l'intérieur. Donc là, elles sont carrément en train de fabriquer la pâte, de pétrir, les plier. Donc c'est une méthode très traditionnelle. Il faut un grand savoir-faire, même si ça a l'air facile.
Et ça se fait un peu devant le client au moment du service?
Exactement, pendant le service. C'est à la commande, en fait. Là, vous avez la maître Bao qui est en train d'étaler la pâte. C'est très particulier parce qu'il faut qu'elle soit assez fine sur l'extérieur pour pouvoir exécuter tous les plis, mais quand même assez solide pour pouvoir supporter le poids de la farce et du bouillon.
Donc on obtient un petit disque de pâte, hein, comme ça.
C'est beau, hein.
Le geste est très précis.
C'est des années, hein, de pratique pour arriver à ce niveau-là. Donc là, du coup, la maître Bao va mettre un peu de farce dans le Sha Long Bao. Et voilà, arrive le moment du pliage. Donc le pliage à 18 plis. Traditionnel.
18 plis?
18 plis, tout à fait, ouais.
Et on obtient
un Sha Long Bao, prêt à être cuit à la vapeur.
Donc c'est comme une espèce de petit ravioli, assez haut, un peu plissé.
Et c'est vraiment la taille parfaite pour poser dans la cuillère en porcelaine et gober.
Qu'est-ce qu'il y a dans la farce?
Dans la farce, c'est une farce veggie. C'est un mélange de légumes de saison. En ce moment, vous avez des carottes, du chou, poireaux, c'est bête. Donc là, elle confectionne les Sha Long Bao, elle en met 6 dans les paniers, et après, ça part sur la machine à vapeur, juste là, que vous voyez qui fume.
Ah oui, là, il y a carrément un... C'est un sauna, là.
Donc c'est ici qu'on cuit les Sha Long Bao, les Shumai, les Hargao, ainsi que les Baozi, qui sont les brioches un peu plus grosses, qui peuvent être farcies avec du porc, porc char siu, donc porc braisé, ou bien veggie et également.
Et vous utilisez des paniers vapeur traditionnels?
Tout à fait, des paniers, tout ce qu'il y a de plus simple, en bambou, comme on le fait en Chine.
Un petit tour chez Bleu Bao, en compagnie de sa directrice Aurélie Nguyen. Alors Bleu Bao, c'est la toute nouvelle adresse de Bao Family, hein. Une adresse qui a été inaugurée très récemment, le 11 février dernier, au numéro 8 de la rue Saint-Lazare, Paris 9e. On est dans le quartier de la rue des Martyrs, et c'est ouvert aussi le dimanche au déjeuner.
Oui, exactement.
Je dis ça, je dis rien. Vous avez déjà un succès fou.
Oui, c'est la folie déjà.
J'ai eu la chance de venir, il y avait la queue sur le trottoir.
Oui.
Ça marche bien.
Oui.
D'autant que c'est très beau. Alors il faut imaginer cette vieille maison bourgeoise chinoise où le bleu de la porcelaine chinoise domine vraiment sur les murs et sur les banquettes. Et en plus, c'est très bon. Alors cette nouvelle adresse, Bleu Bao, est vraiment centrée sur les Bao, les dim sum. C'est vraiment ces spécialités chinoises qui sont mises à l'honneur. Alors revenons un peu justement sur les Bao, parce que Bao, c'est les 3 lettres que vous avez choisies pour baptiser votre écosystème, votre restaurant, votre livre de cuisine. Mais ces 3 lettres désignent aussi un emblème de la cuisine mondialisée, on pourrait presque le dire, hein, un peu la nouvelle star de la street food, notamment dans les capitales anglo-saxonnes et françaises et européennes. Seulement voilà, on s'en mêle un peu les baguettes quand on parle de Bao, parce que ça veut un peu tout et rien dire. Il y en a des sucrés, des salés, de formes différentes. On ne sait pas exactement d'où c'est originaire en Chine. On veut y voir plus clair. Bao, vous diriez quoi?
Alors en fait, bao en chinois, ça se prononce pao, et en fait ça veut
déjà,
dire
sac. Pour commencer. Et ça veut dire petit sac.
Petit sac en fait, et en fait c'est rond en forme de bourse.
C'est ça.
Et c'est ce pliage là en fait qui est rond avec les 18 plis en forme de bourse qu'on appelle le pao.
C'est ça.
Et du coup, il peut se faire sous des formes différentes avec une pâte fine, donc ce qu'on appelle le xialong pao. Donc c'est la pâte fine avec la farce et le bouillon à l'intérieur. Et quand en fait il est épais, donc moelleux, fluffy, comme un petit nuage, c'est le pao-tzu.
Le pao-tzu. Ça, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler la brioche, mais en général, qui est un peu, je dirais que le crâne est chauve et lisse. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
C'est-à-dire que ça, c'est le pao-tzu, c'est vraiment cette petite brioche un peu plus grosse.
Elle est plus grosse. Après, elle peut, en effet, souvent traditionnellement, quand il y a des plis, c'est les salés. Et quand ils sont tout lisses, quand les tout lisses, ce sont les sucrés.
D'accord.
Vraiment, comme ça, on peut différencier les deux.
Et vous avez prononcé le mot magique de xiao. Alors, je prononce mal. Xiao long bao.
C'est ça.
Et ça, c'est ce fameux bao qui a une sensation explosive en bouche. Quand vous l'avalez, c'est très juteux.
Exactement.
Il y a une explosion juteuse.
C'est ça. C'est ça que je trouve hyper intéressant dans ce produit, c'est que la pâte, elle est hyper fine.
Mm-hmm.
Elle doit vraiment faire 16 grammes. Le xialong pao en tout fait 21 grammes.
D'accord.
Et donc il y a 16 grammes de farce, 5 grammes de pâte. Et en fait, c'est un équilibre parfait entre la pâte fine, la farce et le bouillon.
16 grammes, c'est vous, pardon, qui l'avez établi ou c'est une norme vraiment?
Non. Alors c'est une norme en fait dans les restaurants de xialong pao. En fait, il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits entre justement trouver le bon équilibre entre le ratio de la pâte, le ratio de la farce. Et finalement, c'est ça fonction des recherches, qui était le bon équilibre.
Et qui procure cette sensation magique en bouche.
Exactement.
Avec aussi la règle des 18 plis. J'ai vu agir vos cuisinières avec un doigté extrêmement délicat et rapide.
Exactement.
Les 18 plis qui permettent justement de fermer cette petite bourse avant la cuisson à la vapeur.
Exactement.
De quelle région sont originaires les xialong bao?
Alors c'est plutôt la région de Shanghai.
D'accord.
Voilà.
Alors que souvent, les bao, de manière générale, on ne sait pas trop où ça se situe en Chine. Parfois, on pense qu'on en consomme beaucoup avec les dim sum du côté du sud de la Chine,
exactement,
c'est-à-dire la province de Canton, Hong Kong, etc. Alors qu'a priori, le bao à l'origine, puisque c'est fait avec de la farine de blé, ce serait plutôt originaire du nord de Chine.
C'est ça. En fait, c'est originaire du nord de Chine, mais ça s'est très vite démocratisé partout en Chine. Mmh. Et en fonction des régions, en fait, les recettes de farce vont être différentes. Et typiquement, dans le sud, à Canton, donc c'est le cha siu pao qui est le pao tse le plus commun.
Mmh.
Et du coup, c'est le seul bao, d'ailleurs, qui fait partie de la famille des dim sum.
C'est ça. Sachant que les dim sum, plus généralement, ce sont ces petites bouchées vapeur.
C'est ça.
Que l'on consomme en général, surtout dans la région de Canton, pour accompagner la dégustation du thé, c'est bien ça?
C'est exactement ça. En fait, traditionnellement, ça se faisait dans les maisons de thé, et on le mangeait du petit déjeuner jusqu'à 16 heures.
Mm-hmm.
Donc c'est vraiment un repas du matin et du midi, et qui accompagnait le thé.
C'est ça. Alors dans les dim sum, il y a notamment deux dim sum que vous évoquez, qu'on évoque dans le reportage et que vous servez chez Bleu Bao notamment, c'est le siumai et le argao. Alors le siumai, rappelez-nous ce que c'est.
Alors c'est une pâte de farine de blé
avec
une farce de porc crevette.
C'est ça.
Et une baie de goji par-dessus.
Et c'est une espèce de petit cylindre.
Oui, c'est ça, petit cylindre qu'on plie en fait à la main. C'est ça.
La farce est en fait entourée d'une petite pâte de blé.
Oui, exactement.
D'accord. Et le argao?
Et le hakao, c'est un ravioli aux crevettes.
Excusez ma prononciation, je pense que je vais commettre pas mal d'erreurs tout au long de cette émission.
C'est ça. Donc là, c'est farine de riz avec crevettes fraîches. Et là, c'est un pliage vraiment particulier. La pâte est translucide, presque transparente. Et on voit à travers les crevettes roses.
C'est ça, cette fameuse... ça ressemble un peu à un coquillage avec... C'est un peu nacré, effectivement translucide comme vous le dites. Et ça fait partie de la grande famille des dim sum, sachant qu'il y a bien d'autres variétés. Hein.
Oui, il y a aussi les spring rolls, il y a plein de plats qui ne sont même pas des bouchées vapeur, des travers de porc par exemple, qu'on met en avant dans notre livre de recettes. Donc c'est vraiment toute une sorte de petites assiettes en fait, à partager qui accompagnent le thé.
Bon, on y voit plus clair. Un panier vapeur vient d'atterrir sous votre micro, comme par magie. Vous nous les avez apportés, chère Céline Chung. Vous avez évoqué, il y a une petite minute, le cha siu bao. Eh bien, le voici. On veut d'abord une petite description et savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est Zazie Tavitian qui fait le service. Il y a les assiettes qui tournent autour de notre plateau. Oh là là, ça fait vraiment envie. Alors, essayez de le décrire, Elvira.
Je m'apprêtais à compter les 18 plis.
Oui. Est-ce qu'il y en a 18 pour celui-ci?
Je vais vérifier.
Alors, celui-là, il y en a un petit peu moins.
Un petit peu moins. Mais il y a effectivement des plis, vous avez raison. Alors là, on est sur un format un peu plus gros. On n'est pas sur une seule bouchée que l'on mange d'un coup, comme les Xialong Bao. Là, on est sur le Shaoxiu Bao. Et il s'agit d'une petite brioche, pourrait-on dire?
Oui, c'est ça, c'est une brioche vapeur, farine de blé du coup bio, juste de la farine et de l'eau pour la pâte, mmh. et à l'intérieur du porc braisé. C'est vraiment le Chinese barbecue chinois. On a commencé avec une sauce barbecue au début.
Il y a encore la sauce barbecue là-dedans.
C'est hallucinant.
C'est délicieux. Mmh.
Il y a un côté gros doux à l'intérieur.
La viande est confite.
Il y a une viande extrêmement confite. Voilà. D'ailleurs, Shaoxiu Bao, je me suis laissé dire que littéralement, c'était une histoire de cochon.
Exactement. Ça veut dire cochon, du coup.
Cochon rôti.
Cochon rôti, exactement.
Comment vous faites cette sauce aigre-douce?
Alors, en fait, c'est une marinade. C'est une marinade. Donc, on fait mariner le porc dedans.
Ah, pardon, vous avez du mal à... Ah, et oui, on mange les bao, parfois on peut s'étouffer un peu. En tout cas, je peux dire que la recette de Shaoxiu Bao, et ça c'est une bonne nouvelle pour nos auditeurs, est sur franceinter.fr à la page On va déguster. On fait d'abord la pâte, évidemment. Après, il y a toute une technique de pliage. Et ensuite, il y a évidemment cette farce au cochon rôti avec cette sauce exceptionnelle qui le rend vraiment irrésistible.
C'est la pâte de rouge fermentée, pas de soja rouge fermentée qui fait le côté sucré de cette sauce.
C'est ça. Et la pâte, en l'occurrence... Elle se fait, comme vous le dites, avec de l'eau,
oui.
de la farine de blé.
C'est ça.
Il n'y a pas d'agent une pâte levée.
Et de levure.
D'accord.
Si, quand même. On met de la levure pour faire pousser la pâte.
C'est pas trop compliqué à la maison d'opérer ce pliage?
Alors, en fait, il faut avoir le doigté, mmh. en vrai. Donc, il faut juste savoir que la main gauche permet de retenir les plis et la main droite permet en fait de faire les plis. Mais on regarde des petites vidéos sur YouTube et clairement ça se fait assez facilement.
Ma réalisatrice qui veut s'essayer au Shaoxiu Bao pour ses enfants me dit qu'il y a plein de tutos sur Internet. Mais il y a également, franchement, votre livre est très bien fait. Il est très didactique et il y a même un pas à pas très intéressant qui permet de ne pas se planter ou en tout cas de s'aventurer cette expérience vraiment extraordinaire, d'autant que ça plaît aux petits et aux grands. C'est vraiment un truc de dingue. Preuve que les codes du restaurant chinois ont changé et vous en êtes en quelque sorte, chère Céline Cheung, la preuve vivante. Vous faites très attention à vos matières premières. Vous avez évoqué une farine biologique qui entre dans la composition de tous vos raviolis.
C'est ça. En fait, c'était hyper important pour nous de casser un peu les clichés autour de la cuisine chinoise qui disaient que voilà, on n'utilisait pas des bons produits dans les restaurants chinois. Et on a passé énormément de temps avant l'ouverture de notre premier restaurant Petit Bao à chercher en fait la farine parfaite. On voulait qu'elle soit bio, on voulait qu'elle soit en Île-de-France et on voulait reproduire cette texture très moelleuse, une pâte qui ne colle pas aux dents et une texture blanche pour la pâte, parce qu'en fait, en fonction des farines, elle peut être jaune également. Et du coup, on a travaillé avec les moulins bourgeois, du coup, qui sont situés à Verdelot. Et on a fait plusieurs tests de farine avec eux. Et après au moins 6 tests de différentes farines, on a choisi celle-ci. Donc, c'est une T65 bio qui permet d'obtenir à la fois l'élasticité qu'on veut, le moelleux qu'on veut et la couleur qu'on veut.
Même attention au sourcing. Porté sur ce qui compose vos raviolis, notamment le cochon.
Exactement, donc c'est un porc fermier de Sarthe. C'était super important pour nous que nos viandes soient françaises et qu'on sache en fait d'où elles viennent. Et du coup, on travaille avec un boucher qui nous met directement en contact avec ses producteurs à lui. Et donc, on choisit les viandes comme ça. Et en fait, à chaque fois, c'est à la fois hyper important pour nous de savoir d'où elles viennent, comment c'est travaillé, et aussi en termes de goût, parce qu'il faut obtenir les mêmes textures, le côté gras quand même de notre cuisine, il faut le retrouver avec le produit, et du coup le produit en fait est vraiment au cœur de notre cuisine, et on passe beaucoup de temps à choisir minutieusement les produits qui vont composer chacun de nos assiettes.
Et ça, il faut bien reconnaître que c'est quand même une évolution très marquante dans la conception, l'idée que l'on se fait du restaurant chinois. Loin de nous évidemment l'idée de pratiquer la moindre sinophobie, mais il y avait quand même un petit manque de transparence dans le restaurant chinois traditionnel. Il y a même eu cette polémique en 2004 de l'émission Envoyé spécial, qui a levé le voile sur cette polémique autour des ateliers ravioli. Oui. Vous savez, ces appartements clandestins où l'on pratiquait dans des conditions sanitaires très contestables la fabrication des raviolis avec des matières premières un peu aléatoires. Là, pour le coup, vous, dans votre projet, française de parents chinoises, vous avez décidé justement de prendre à bras le corps cette question. Oui. Et de faire un restaurant chinois finalement transparent.
Exactement. Mais je pense que je voulais vraiment dire stop à tous les clichés possibles. Et en fait, pour dire stop à ces clichés, il faut l'assumer jusqu'au bout, être engagé jusqu'au bout. Et pour nous, c'était super important dans toute la conception en fait du projet de ce restaurant-là, d'aller de bien faire les choses et de justement casser cette image de mauvaise qualité autour de la cuisine chinoise. Et au-delà de ça, pour nous, c'est quand même hyper important de faire une cuisine avec des bons produits. On nourrit les gens et donc c'est important de faire attention à ce qu'il y a dans les assiettes.
On va donner la parole dans un instant à Zazie Tavitsian, mais précisons simplement que Bao Family, alors c'est Bleu Bao qu'on a évoqué dans le 9e arrondissement, un petit mot sur les deux premiers établissements, l'aventure a commencé quand ?
C'était janvier 2019 avec Petit Bao, rue Saint-Denis à Étienne-Marcel, le bougie
chinois.
Deuxième
arrondissement, c'est ça.
Exactement. Et ensuite, Gros Bao qu'on a ouvert en juillet 2020, juste après le premier confinement.
Et on peut quand même dire raisonnablement ici, tous ensemble, autour de cette table, que c'est une belle réussite, hein. Les clients sont au rendez-vous.
Oui, et qu'on s'y régale surtout.
Pour des budgets tout à fait honnêtes.
Oui, c'est ça. Ce qui est important, c'était de faire de la bonne cuisine accessible pour justement démocratiser cette cuisine chinoise.
On va continuer à parler évidemment de votre belle aventure. Vous allez aussi nous donner deux autres belles recettes des plats signatures que vous servez dans l'univers de Bao Family. Mais tout de suite, on donne la parole à Zazie. Oui, car Zazie a recherché le grand frisson chinois avec un spécialiste de la cuisine chinoise à Paris.
France Inter. On va déguster.
Zazie Tavitsian, vous êtes partie dans le quartier de Belleville. Alors, on est vraiment au nord de Paris, dans le 20e arrondissement. Et vous y avez pris un petit déjeuner.
Oui, je suis allée retrouver Anda Cheng, qui est le créateur du compte Instagram Shifan. Shifan, ça signifie tout simplement manger en chinois. Et j'avais très envie de le rencontrer, car je trouve que, comme Céline, Anda, il fait vraiment partie de cette génération de jeunes franco-chinois qui mettent en avant cette cuisine vraiment, moi, que j'adore, qui est très variée, très riche, et tout en déjouant les clichés et les préjugés que peuvent en avoir parfois les Français. Sur son compte qu'il a créé il y a un an, Anda Cheng, il donne des super recettes, mais aussi plein d'infos sur les produits typiques de cette cuisine chinoise et sur ses aspects culturels. Il organise aussi de temps en temps ce qu'il appelle des food tours, donc des tours culinaires, et je lui ai demandé de m'en dire un peu plus.
Alors c'est un parcours, on va dire, de dégustation à Belleville, donc à travers plusieurs restaurants que j'aime bien, donc souvent des petits boui-boui j'appelle, que je trouve assez intéressant pour une découverte de la cuisine chinoise. Les plats que je fais déguster souvent, c'est des plats que la plupart des gens n'ont jamais mangé, même pour ceux qui s'y connaissent un peu, donc c'est des plats un peu atypique, on va dire, pour un public français. L'idée aussi, c'est d'accompagner, de les faire comprendre, de raconter une histoire derrière chaque plat, tu vois, donc c'était vraiment ça. Il y a des plats qui sont liés au petit déjeuner, donc qui sont effectivement très différents, donc c'est vraiment un point de départ intéressant.
Et là, justement, tu m'as amené prendre le petit déjeuner. Enfin, c'est un peu un brunch parce qu'il est 11h. Où est-ce qu'on est ?
Alors là, on est vraiment... Alors là, on est sur un terre-plein, donc à Belleville, vraiment à la sortie du métro de Belleville. Donc on est devant un truc qui s'appelle Sinowich et qui vend des tiempings, donc c'est une sorte de crêpe. Effectivement, c'est un plat qu'on mange le matin, mais en vrai, on peut en manger tout au long de la journée. Donc ce plat-là est d'origine du Nord, exactement dans la ville de Tianjin, donc une grande ville à côté de Pékin. Et aujourd'hui, on la retrouve partout en Chine, parce que justement, c'est un plat qui est très facile à manger, justement dans la rue, donc facile à faire aussi, qui s'adapte aussi parfois donc aux goûts régionaux, hein, donc des différentes régions de la Chine, donc certaines régions mangent épicé et d'autres pas. Certaines régions changent, par exemple, la farine de base, selon le terroir local, donc c'est ça qui est aussi très intéressant pour un plat.
Donc là, on va en prendre un.
Allez.
Bonjour.
我想来一个煎饼。对，要素的还是加糯的？素的。素的。那不那？呃，辣。
Alors la Tianping que l'on a dégustée a été préparée à base de 4 céréales, riz, soja, millet et maïs.
Ça fait envie, hein.
Ouais, c'était vraiment très très bon. On l'a mangé dans sa version classique, donc végétarienne, avec sésame, ciboule, champignons, choux. Et il y avait deux sauces, dont une sauce pimentée. Et il y a aussi à l'intérieur une feuille de pâte croustillante, ça donne vraiment une texture hyper intéressante. Et c'était vraiment très bon. Je crois que je pourrais facilement troquer ça contre mes petits pains au chocolat du petit-déj.
Est-ce que chez Bao Family, il y a des Xiangping Céline Chiang ?
Non, on n'en fait pas encore.
Pas encore ? Ça veut dire que ça se pourrait ?
Ça se pourrait. On aime bien tous les plats de street food. Et du coup, moi, c'est un produit que j'adore. Et Donc pourquoi pas.
Et ce qui est intéressant, Zazie, c'est que cette recette varie vraiment en fonction des régions chinoises. Et
oui, c'est ce que me disait Anda. Il me rappelait que la Chine s'est fait 17 fois la taille de la France. Donc il existe une multitude de terroirs et de cuisines en conséquence. Alors on connaît un peu le riz au sud, le blé au nord, les 8 cuisines régionales. Anda, lui, il me disait qu'il arrive souvent que deux villages voisins n'aient pas le même dialecte et ne prennent pas le même petit-déj.
Ouais.
Lui, il a grandi à Wenzhou jusqu'à ses 11 ans avant d'arriver en France. Wenzhou, c'est une ville côtière située un peu au sud de Shanghai, au sud-est de la Chine. Donc on y mange notamment beaucoup de fruits de mer et on prend aussi beaucoup de petits-déjeuners. Un des souvenirs les plus marquants de Anda, c'est justement les petits-déjeuners salés que l'on prend à l'extérieur, très différents des petits-déj français.
Effectivement, en fait, il y a beaucoup de petits restaurants qui sont ouverts que le matin et dans lesquels tu peux aller chercher ta popote du matin. Donc ils sont spécialisés dans un seul type de plat. Du coup, les gens sortent beaucoup le matin pour prendre leur petit-déj parce que c'est pas cher, c'est rapide et c'est souvent des plats qu'ils peuvent pas faire à la maison. En tout cas, ça prend du temps à les faire. Donc moi, un petit-déj que j'adore, c'est du riz gluant qui est servi avec un bouillon, donc à base de porc haché et de champignons, donc qui est mijoté pendant des heures. Donc moi, j'adore donc verser ce petit bouillon donc dans le riz gluant et par-dessus, voilà, t'as un peu de porc séché, t'as un peu de la ciboule, t'as un peu des petites crevettes séchées selon les endroits, donc ça peut varier un peu, mais ça, par exemple, tu vas manger du riz gluant le matin avec un bouillon, c'est assez inhabituel. Et les gens qui ont goûté ça, il y en a plein qui ont trop kiffé, quoi. Et ça, on l'accompagne évidemment avec une boisson. Les plus classiques, c'est du lait de soja ou un truc aussi que je propose pendant le food tour, c'est de la fleur de tofu. Donc c'est le tofu soyeux, vraiment là, qui n'est pas du tout pressé, donc hyper soyeux, hyper tendre. Donc c'est pour ça qu'on appelle la fleur de tofu un peu.
Alors je vous ai ramené le petit déjeuner typique de Wenzhou, là vous êtes en train de le manger, donc le riz avec le bouillon au porc et le tofu salé. J'ai acheté
ouais,
ça chez...
tofu soyeux.
Je me suis réveillée tôt pour aller acheter ça chez Best Tofu à Belleville ce matin.
C'est un régal, c'est vraiment un tofu qui, pour le coup, comme son nom l'indique, glisse sous le palais.
Ouais, c'est vraiment bon. Céline, est-ce que vous connaissez ces petits déjeuners ?
Ah bah oui, c'est ce que je mangeais chez mes grands-parents
parce
chaque fois que j'allais en Chine, parce qu'on vient de la même ville finalement.
Wenzhou,
exactement.
Vous nous la resituez ?
C'est au sud de Shanghai, à une heure en avion de Shanghai.
Et c'est de là que vos grands-parents sont originaires ?
Oui.
C'est vos parents qui ont émigré en France ?
C'est mon grand-père.
C'est votre grand-père ?
C'est mon grand-père, oui.
Et vos parents ont suivi ?
Mes parents ont suivi à l'âge de 16 ans.
C'est ça.
Et Anda, il me disait aussi que les baozi dont vous parliez, c'était aussi des grands classiques du petit déjeuner
oui,
en Chine.
Exactement. On mangeait les grosses brioches, nature ou fourrées. Et ça existe aussi en plus petit. Et on en mangeait par dizaines.
Ah oui,
ça, c'est une bonne idée pour une quatrième boutique, pour un quatrième bao, je pense.
Petit-déj
bao.
C'est ça, vous expliquez dans l'introduction de votre livre que c'est ces souvenirs de dégustation dans le pays d'origine de vos aïeux, de vos parents et de vos grands-parents que vous est venu le goût de cette cuisine chinoise que vous avez eu envie de transmettre au public français, justement.
C'est exactement ça. En fait, la cuisine a une importance centrale dans la culture chinoise. Vraiment, on ne parle de cuisine toute la journée. C'est-à-dire que le matin, on se lève, c'est exactement ce que racontait mon collègue. On va acheter le petit déjeuner dehors. Ensuite, on va faire les courses au marché pour préparer le déjeuner du midi. Et on va déjà réfléchir également au dîner du soir. Et en fait, toute la journée, on réfléchit en fait aux trois repas. aux trois repas de la journée et les conversations tournent qu'autour de ça, qu'autour de la nourriture. Et en fait, j'ai compris que c'était le langage en fait de l'amour dans notre culture, parce qu'en fait, on ne se dit jamais je t'aime, il n'y a pas de signe en fait d'affection. Et en fait, les signes d'affection passent vraiment par, par prendre soin des gens en leur cuisinant des bonnes choses à manger.
Le partage à table et la convivialité.
C'est ça.
Très émouvant. Beaucoup d'auditeurs nous demandent déjà le nom de ce lieu de Belleville. Vous avez mangé ces fameuses crêpes dont vous nous rappelez le nom avec l'accent,
oui,
s'il vous plaît.
Oui, c'est Sino-Witch. C'est facile, Sino et Witch pour sandwich.
Et
c'est vraiment sur le terre-plein de Belleville. Ça, je vous remettrai toutes les infos sur le site. Pour le compte Instagram de Chifan, c'est chifan-paris. Et pour les personnes qui n'auraient pas Instagram, parce que ça existe, ils peuvent aller trouver un lien pour s'inscrire à la newsletter que j'ai mis sur le site de France Inter aussi.
Et le nom de ces petites crêpes ?
Ce nom de ces petites crêpes à la
page 1.
Non, je ne voulais pas vous piéger.
Non, parce que je n'ai pas la bonne prononciation. Changping.
Jianping, c'est ça.
Voilà, et
bah
voilà. Presque.
Bah ouais, j'étais super presque. Prononciation.
J'ai paniqué.
Et je précise d'ailleurs que dans votre livre Bao Family aux éditions Hachette Cuisine, Céline, il y a un chapitre, page 41, consacré justement au petit déjeuner, repas très important comme vous nous le disiez en Chine. Et il y a notamment cette recette que moi j'ai eu l'occasion de goûter à Canton, mais également à Hong Kong et qu'aime beaucoup, je crois aussi. Elvira, est-ce qu'elle sait de quoi je veux parler?
Non, pas du tout.
Petit déjeuner de Hong Kong à base de riz.
Le congee, le porridge.
Qu'est-ce que c'est?
C'est bon ça, c'est une espèce de gruau de riz, de porridge
oui, c'est
de riz.
C'est du vieux riz voilà, qu'on fait en porridge. Et en fait, on peut l'accompagner de... Il peut être salé ou sucré, généralement salé. Et en fait, vous prenez ce qu'il y a dans votre frigo pour, voilà, pour le topping, en fait.
Des champignons émincés, des cébettes.
Exactement, même
des œufs
de riz
très aromatique. Congee en occidental, hein, C-O-N-G-2-E. Alors là, il y a la recette, page 42, à l'œuf de 100 ans. Et il y a également la recette qu'évoquait Zazie, le youtiao.
Oui, youtiao.
Youtiao, page 44, qui est cette espèce de beignet qui accompagne justement hein, le congee notamment.
Oui, exactement. Il peut accompagner le congee ou même un bol de lait de soja le matin.
Bon, on est loin de tout savoir sur la cuisine chinoise, mais on progresse un peu au fil de cette émission. Dans un instant, d'autres recettes de notre amie Céline Cheung et la fameuse sauce mystère que va nous proposer et nous faire goûter Elvira Masson. Pardon, on était en train, on ne voyait pas la fin du disque arriver, je suis désolé, on était tous dissipés parce que on se concentre sur les deux nouvelles recettes que nous propose notre chère Céline Cheung et je peux vous dire que ça fait sacrément envie. Il est question notamment de Mapo Tofu. On écoutait Jacques avec le titre Ça se voit et les saveurs chinoises se voient, se sentent et se mangent aujourd'hui autour du plateau dont on va déguster. Nous sommes en compagnie de Céline Cheung qui a écrit Bao Family. La cuisine chinoise entre tradition et modernité, avec combien de recettes d'ailleurs? Il y en a pas mal.
80.
Hein. 80 recettes, ça fait du boulot. Si l'on veut s'y mettre à la maison, les photos de Grégoire Calte, Elvira Masson et Zazie Tavitsian font partie du voyage. Alors, quelques bonnes adresses, chère Elvira, de nos auditeurs qui nous conseillent des choses intéressantes.
Oui, à commencer par un restaurant qui s'appelle À la mer de Chine.
Oui.
C'est dans le 13e rue du Château des Rentiers.
Moi, je connais.
On y mange des choses formidables sorties des sentiers battus, des langues de canard, des aubergines croustillantes, des crabes en mue. Après le service, on y croise les cuisiniers des restaurants du coin. La salle n'est pas très sexy, mais purée, c'est autre chose dans l'assiette.
Vous recommandez la mer de Chine ?
Ah oui.
C'est
allez-y.
Une adresse aussi que j'ai eu l'occasion d'expérimenter et j'en étais tout réjoui.
Ouais. Et Fanny nous partage une adresse dans laquelle on peut croiser Zazie, je pense, une fois par semaine.
Faut pas la donner. Allez-y.
C'est quoi ? C'est le Grand Bol.
C'est le Grand Bol. Ouais, j'adore à Belleville.
À Belleville, toujours, ouais.
Bah, racontez-nous.
Bah, on y mange extrêmement bien. Ils sont adorables. Je sais plus de quelle région ils sont en Chine exactement. Moi, j'aime tout. J'aime tout là-bas. Je vous laisse découvrir la carte. Et vraiment, il y a pas mal de spécialités de fruits de mer aussi. Mm-hmm. Des coques. C'est vraiment très bon. Mon but, c'est de me faire toute la carte en entier d'ici la fin de l'année. C'était ma petite mission que je me suis donnée.
Si vous voulez retrouver Zazie Tavitian avec son petit micro France Inter, sachez qu'elle est souvent au Grand Bol, à Paris.
Une adresse que Jean-Philippe nous envoie, qui est à Bourges, une adresse excellente, ça s'appelle Very Vapi. Cuisine soignée, produits frais utilisés pour des plats succulents et servis avec beaucoup de gentillesse.
Très bien.
On n'en sait pas plus sur ce qu'on y mange, mais à voir. Et une dernière adresse qui est un salon de thé chinois à Toulouse, rue Pérolière. Je n'ai pas le nom, mais c'est au 39 rue Pérolière à Toulouse.
D'accord,
salon
on va chinois. Faire nos petites recherches.
Un riz gluant au poulet cuit et servi dans des feuilles de lotus.
Je sais pas si ça vous connaissiez ou pas, Céline ?
Ah non, je ne connaissais pas.
Est-ce que vous constatez que la cuisine chinoise, de manière générale, progresse à Paris et en région ? C'est une certitude. Alors, il y a évidemment l'écosystème Bao Family avec vos trois adresses. Mais il y a au-delà de ça, une nouvelle génération que l'on sent, que l'on perçoit au coin de la rue, hein, de restaurants chinois qui font attention.
Complètement. Je pense qu'il y a eu un vrai... shift depuis 3 ans, peut-être même 5 ans, autour de cette nouvelle génération de personnalités chinoises qui ont envie en fait de vraiment redorer l'image de cette cuisine-là. Et du coup, je pense que le Grand Bol en fait partie. Il y a la taverne de Zhao également qui fait partie
de ce
mouvement.
Oui, la taverne de Zhao, évidemment, dans le 10e arrondissement.
Exactement. Et je vois émerger de plus en plus de restaurants chinois dans le paysage gastronomique français, alors que c'était pas forcément une cuisine qui était très représentée à l'époque.
C'est vrai.
On parlait beaucoup plus de cuisine japonaise, vietnamienne ou thaïlandaise. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a de plus en plus de nouvelles adresses chinoises et on en parle et on y mange. Et moi, ça me fait vraiment très plaisir.
En préparant cette émission, vous m'avez donné des précisions sur ce phénomène sociologique du restaurant chinois du coin de la rue qui est apparu notamment à Paris et dans toutes les grandes régions françaises dans le courant des années 50-60. On a longtemps pensé que ces restaurants chinois étaient en fait tenus par des Vietnamiens. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait souvent sur la devanture spécialité chinoise, vietnamienne et thaïlandaise. C'est pas tout à fait ça en fait. C'était bien des restaurants
chinois.
C'était bien des Chinois qui étaient au fourneau.
Exactement. En fait, c'est une diaspora chinoise qui vient de la région des Tétiou, donc à côté de Canton, mais en fait qui ont immigré dans des pays d'Asie du Sud-Est. Donc ils sont allés dans leur chemin d'immigration au Vietnam, au Cambodge, au Laos.
Dans les anciens pays de l'Indochine.
Exactement. Et ensuite, ils sont venus en France. Et du coup, quand ils ont ouvert leur restaurant chinois, ils se sont également inspirés finalement de leur, de leur voyage d'immigration donc dans ces pays d'Asie du Sud-Est. Et du coup, forcément, ils ont présenté et partagé la cuisine qu'ils connaissaient. Et donc, ce n'était pas que de la cuisine chinoise, c'était la cuisine chinoise avec un peu de cuisine vietnamienne, cambodgienne, mais qui venait finalement de leur histoire.
Et c'est pour ça qu'on retrouvait le nem, entrée emblématique, évidemment, avec la feuille de laitue, ainsi que la feuille de menthe, et puis la fameuse sauce au gnoc mam un peu aigre-douce.
Oui.
On la retrouvait dans tous les restaurants chinois. On a longtemps pensé que le nem était donc une spécialité chinoise. C'est une spécialité, en fait, vietnamienne.
Exactement.
Qui a été, en quelque sorte, récupérée ou attrapée par les Chinois immigrés qui ont ensuite fait leur voyage vers l'Europe.
Complètement.
Bon, on est au clair là-dessus. Mapo tofu, je disais.
Oui.
Kézago.
Alors, du coup, c'est un plat classique de la région du Sichuan, très pimenté, mais c'est vraiment un classique maintenant de la cuisine chinoise qu'on trouve dans vraiment beaucoup de restaurants gastronomiques en Chine. Et la magie, en fait, de ce plat, c'est le bois du Sichuan rouge, qui asphyxie un petit peu la langue, mais il y a un côté très sucré avec le mélange de topinjiang, donc la pâte de soja fermentée, et aussi les fèves, les fèves de soja, qui donnent en fait cet équilibre entre le piment, le sucre et la douceur du tofu. Donc moi, je trouve que ce plat, il est vraiment magique.
Imaginons des gros cubes de tofu avec du porc haché, une petite sauce rouge cuivrée, assez relevée. Il y a de l'aigre, il y a du doux, il y a du pimenté. Vous aimez ou pas ?
Moi, je suis complètement fan. J'en cuisine aussi chez moi. Et c'est pas si difficile à cuisiner quand on a les bons ingrédients. Et là, c'est végétarien en plus, cette version-là, il me semble.
Oui, alors en fait, traditionnellement, il se fait toujours avec du porc haché. En fait, le porc donne un côté... un côté goûtu au plat, et c'est très utilisé en Chine. Et nous, en fait, à Gros Bao, on le fait avec une viande végétale, les nouveaux fermiers, parce que voilà, on voulait rendre ce plat 100% végétarien. Mmh. Et donc, on a essayé de trouver une astuce pour remplacer le porc par quelque chose. Et à la maison, parce qu'on l'a aussi dans le livre de recettes, vous pouvez le remplacer par des shiitake, des champignons shiitake.
Là, c'est aussi l'un des marqueurs de l'évolution de la nouvelle cuisine chinoise, c'est que traditionnellement, la cuisine chinoise, on la prend pour très riche en protéines animales, alors que vous faites l'effort justement dans les restaurants Bao Family pour présenter beaucoup de spécialités végétales. Et j'en profite pour dire d'ailleurs que vous êtes dans une démarche anti-gaspi.
Oui, exactement. Nous, c'est important pour nous qu'on ait 50% à peu près de la carte qui soit végétarienne.
Ah, quand même, la moitié de vos intitulés.
Exactement. Et du coup, on a fait des choix de ne pas utiliser de la viande dans le mapo tofu et aussi dans les aubergines honchao, parce que traditionnellement aussi les aubergines se servent avec du porc, donc on a décidé de pas le faire. Et l'anti-gaspi, c'est très important pour nous. Typiquement, le riz sauté, en fait, il se fait avec les restes du frigo. Du coup, c'est ce qu'on conseille dans notre livre de recettes, c'est-à-dire que vous pouvez prendre du riz de la veille, ne jamais jeter son riz, on le réutilise toujours. Et ensuite, vous pouvez faire sauter le riz avec tous les légumes que vous avez qui restent chez vous. Et ça fait une nouvelle recette de riz sauté à chaque fois. Et ce qui est important pour nous, c'est de tout réutiliser dans les ingrédients. Et typiquement, le canard pékinois en est aussi un exemple, parce qu'on utilise tout dans le canard. Les os servent à faire la soupe. On mange la peau, on la fait hyper croustillante, le magret se mange. Le reste de la chair qui reste sur la carcasse, on en fait un riz sauté justement. Et du coup, on le sert en trois services, mais on utilise vraiment toutes les parties du canard.
Et ça, c'est important quand même. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que on est sur du zéro déchet. Et l'exemple de ce riz de la veille que l'on recycle à travers... le fait simplement de le sauter avec une petite sauce, les légumes également de la veille, ça donne un plat
en plus, c'est meilleur,
très consistant, très nourrissant. Le riz de la veille est souvent meilleur d'ailleurs, c'est ce que vous dites dans votre livre, c'est qu'il saute mieux, les grains se dissocient mieux, c'est meilleur à tous les points. La recette de Mapo Tofu, alors en version cochonne, si j'ose dire, et en version végétale, est à retrouver sur franceinter.fr. À la page On va déguster, parfois on peut être effrayé par deux, trois ingrédients un peu compliqués à trouver, comme cette pâte de soja pimentée, etc. Mais en fait, il y a les épiceries asiatiques, et désormais, tous ces produits-là, on les trouve aussi, évidemment, en ligne, en les commandant sur Internet.
Oui, exactement. Vous pouvez tous les trouver. Il faut juste bien vérifier les noms, parce qu'en effet, tout est écrit en chinois, donc il faut faire un petit peu attention. Mais tout, en vrai, tout se trouve.
La sauce mystère d'Elvira Masson. Il y a beaucoup, beaucoup d'auditeurs qui ont trouvé la réponse, puisqu'elle tient en deux lettres. Bravo à vous d'ailleurs, mais on a, pour ceux qui ne le savent pas, la solution des jeux avec Elvira tout de suite.
On va déguster. Sur France Inter.
Alors j'ai disposé devant vous une petite assiette qui contient une feuille de chou. Et sur cette feuille de chou, j'ai glissé une cuillère de cette sauce en deux lettres. Ah oui, vous la gobez comme ça en une bouchée. Je vous laisse parler, François-Régis. Qui n'a pas la bouche pleine? Alors, est-ce que vous savez ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que vous décelez déjà ou deux ingrédients?
Un goût de fruit de mer.
Et un côté fruit de mer, j'allais dire.
C'est
aussi
très fruit de mer.
C'est bon. Voilà.
Ça va, ça pique pas trop?
Non, c'est super bon.
J'ai fait une sauce assez calme.
C'est vraiment délicieux.
Ouais.
C'est très profond.
C'est très profond. C'est supposé être assez umami, ça doit attraper un peu l'arrière de la bouche.
Ah, carrément. C'est légèrement chauffant, donc ça veut dire que ça pimente un peu.
Ouais. Et ça doit être un petit peu viandeux aussi.
C'est pas vous qui avez fait ça quand même.
Eh ben si.
Non.
Eh si.
Bravo.
Alors, fruits de mer séchés, c'est...
Oui, fruits de mer séchés.
Fruits de mer séchés, exactement. Bon, vous savez ce que c'est.
Moi j'ai ma petite idée, mais c'est vous qui allez nous le dire.
Une consonne, une voyelle. Alors consonne, c'est le X.
X.
Et voyelle, c'est O. La sauce XO.
XO.
Alors c'est pas une sauce traditionnelle, la sauce XO, enfin en tout cas pas au sens ancestral du terme, mais c'est ce qui m'a amusée. Elle est née à Hong Kong dans les années 80, cette sauce. Elle serait née soit au restaurant Spring Moon de l'hôtel Peninsula, donc un hôtel de luxe, soit dans l'un des nombreux restaurants de poissons de Kowloon, qui était une enclave dans l'enclave, en quelque sorte une enclave chinoise dans la partie nord de Hong Kong, encore britannique à l'époque, avant la rétrocession. Alors XO, ça évoquera aux amateurs la référence au cognac, pourtant pas de cognac dans cette sauce, qui aurait été ainsi nommée pour tirer parti du prestige associé à cette dénomination de XO, qui est la désignation du cognac extra old, entre guillemets, pour faire un peu chic, quoi. Donc pas de cognac, mais pas mal d'ingrédients dans cette sauce. À l'origine, elle contenait des Saint-Jacques ou des pétoncles séchés, des crevettes séchées, du jambon du Yunnan, je prononce bien, Céline ?
Oui,
jambon du Yunnan. Des œufs de crevettes, de la pâte de piment, du piment frais, de l'ail, de l'échalote, de l'alcool de riz ou du vin de riz. Alors là, j'ai pas tout compris. Je lisais parfois rice wine, alcool de riz. Bon,
c'est oui, c'est ça. L'alcool de riz qu'ils appellent
qu'on appelle aussi vin de riz.
Oui, c'est ça, d'accord. Exactement.
Et lors de son transfuge vers l'Occident. Précédée de cette réputation XO un peu bling, cette sauce a été plutôt invitée à des tables new-yorkaises, londoniennes, comme ça, un peu sino-chic, avant de se retrouver dans sa version plus cheap dans les rayons des supérettes des Chinatown locaux. Chez nous, on l'a pas trop vu cette sauce en France avant que des chefs français en tombent sérieusement amoureux. Je pense à Adeline Grattard, chef étoilé du Yapcha, oui, qui fait sa propre sauce XO.
Dans le premier arrondissement. Ouais.
Je pense à Christophe Pellet, le chef du restaurant Le Clarence, toujours à Paris, qui fait sécher des Saint-Jacques, des crevettes, voire des ormeaux, avant de les travailler avec des shiitakes, du jambon de Bigorre et un petit peu de saké. Et moi, je garde un souvenir inoubliable dans toujours un restaurant à Paris qui s'appelle Double Dragon, le restaurant de la chef Tatiana Leva, qui mélange des influences comme ça, chinoises, japonaises, philippines, où j'ai goûté il y a quelques années un truc vraiment redoutable, des cubes de tofu frits contenant du comté filant, fondu, que l'on trempait dans la sauce XO. Ah oui. Zazie, vous vous souvenez aussi ?
Ouais, je m'en souviens aussi.
Alors, je me suis décidée à la faire moi-même, cette sauce, parce que j'en ai tout simplement pas trouvé au supermarché chinois à côté de chez moi. Et surtout, j'avais un peu envie d'éviter ce qu'il peut y avoir parfois dans les sauces comme ça, toutes faites des supermarchés, mais qui soient d'ailleurs supermarchés français ou chinois, c'est pas tellement le sujet, c'est que c'est bourré d'additifs. Mm-hmm. Alors, il n'y a rien de bling du tout dans ma version. C'est pas une version luxe, mais elle est juste un petit peu longue à préparer. Il faut quand même avoir un supermarché asiatique à portée de main pour trouver des crevettes séchées. J'ai trouvé. J'ai pas trouvé de Saint-Jacques ou de pétanque séchée, donc je suis allée chez le poissonnier acheter des noix de Saint-Jacques que j'ai fait déshydrater au four en tranche fine. Bon, ça a pris des heures, hein. C'est pas du tout bilan carbone catastrophique de mon séchage de Saint-Jacques, mais j'ai réussi ainsi à obtenir des Saint-Jacques séchés. De l'alcool de riz, du sucre, de la sauce soja, de la pâte de piment, un peu de piment frais, 6 gousses d'ail, 3 échalotes, évidemment pas de jambon du Yunnan. J'ai utilisé du jambon de Parme, mais je me dis qu'un jambon, un autre jambon cru, peut-être un peu fumé, aurait apporté un petit truc en plus. On commence par réhydrater les crevettes et les Saint-Jacques. On garde l'eau de réhydratation, parce qu'elle va servir comme ça à allonger un petit peu la sauce. On presse l'ail, on émince finement. En fait, on mélange tout. Évidemment, les proportions exactes de cette sauce sont sur le site. Quand on fait revenir dans un petit peu d'huile l'ail, l'échalote, le piment, la pâte de piment, le sucre, le jambon et un petit peu d'alcool, quand ça croustille, on rajoute un petit peu d'eau de trempage des crevettes et des Saint-Jacques. Et l'idée, c'est qu'on cuit ça assez longuement, qu'on doit essayer de tendre vers le croustillant, que le liquide doit s'évaporer et qu'on finit une cuisson au four avant de mettre ça en pot.
Incroyable. Mais alors cette note pimentée, elle vient d'où ? Parce que moi, j'avais le palais qui chauffait un peu.
C'est la pâte de piment et piment frais.
Ah, la pâte de piment, pas suivi, pardon.
Pâte de piment et piment frais, j'y suis allée vraiment. J'avais du mal à doser le piment, donc j'y suis allée progressivement, donc j'en ai rajouté un petit peu. Maintenant que je tiens le dosage, j'irai plus franco la prochaine fois, mais je trouve ça assez épatant.
Mais réussite.
Et je vais manger ça ce soir avec j'ai un reste de riz qui traîne dans le rice cooker, et j'ai ce petit morceau de chou qui me reste, je vais hacher tout ça, je pense que ça va être pas mal.
Bravo. Sauce XO ou pas chez Bao Family ?
Non, on l'utilise pas.
Et alors ?
Pour l'instant. Je pense que on va la faire
avec
nous-mêmes.
Avec la recette d'Elvira.
Exactement.
Avec la recette d'Elvira. On arrive malheureusement à la fin de cette émission, mais on voulait vous signaler aussi que Céline Chang nous avait préparé une délicieuse salade de concombre mariné. Alors pour le concombre, on attendra un peu l'été pour la saison, mais en tous les cas, on peut remplacer le concombre par d'autres ingrédients, comme
oui,
par exemple du champignon.
Exactement, melon d'hiver, champignon, moueur.
Et c'est une sauce à base d'ail, de sucre, de vinaigre de riz, d'huile de sésame et de sel. Elle est vraiment irrésistible, cette marinade. Faites-la à la maison avec tous les légumes croquants qui vous tombent sous la main. Vous allez adorer. Un grand merci. Céline Chang, Bao Family, la cuisine chinoise entre tradition et modernité, aux éditions Hachette Cuisine. Vraiment, pour apprendre la cuisine chinoise, c'est le bouquin qu'il vous faut. La semaine prochaine, une émission sur la nouvelle folie pâtissière, le flan. Nous serons en compagnie de notre historien Loïc Bienassi et de l'auteur Ju Chamalof. Voilà, merci beaucoup Céline Chang. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.